Italie, le mythe de la République antifasciste, entre guillemets. Mardi 2 juin, entre parade militaire et hommage aux soldats inconnus, le gouvernement italien a organisé à Rome un hommage à la République. C'était en effet les 80 ans du référendum du 2 juin 1946 qui fit passer l'Italie de la monarchie au régime républicain, en même temps que se tenaient des élections pour une assemblée constituante. Pour la première fois aussi, les femmes y avaient eu le droit de vote. Le parti Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, de la chef du gouvernement Giorgia Meloni, descend directement du MSI, le mouvement social italien, un parti héritier du parti fasciste. Elle n'en était pas moins présente aux célébrations aux côtés du président de la République, Sergio Mattarella, et avait posté sur les réseaux un message de « Bonne fête de la République », entre guillemets, exaltant l'unité nationale et le service de la patrie, entre guillemets. Son compère et rival Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue, vice-président du Conseil des ministres et ministre des infrastructures, avait quant à lui choisi de ne pas se rendre aux réjouissances, prétextant « être au travail », entre guillemets, pour éviter la grève des cheminots prévue le 11 juin. Meloni se garde bien en général de prononcer le mot « fascisme » entre guillemets et préfère éviter les références à l'idée d'une république et d'une constitution sociale instaurée grâce à la lutte contre la dictature mussolinienne. En revanche, cette idée est devenue un mythe entretenu par les partis de gauche. Du côté de l'opposition au gouvernement Meloni, on s'est donc senti obligé de donner des couleurs plus sociales et moins guerrières à l'anniversaire. Elie Schlein, la dirigeante du PD, le Parti démocrate, de centre-gauche, a parlé de l'instauration de la République comme de la naissance d'une Italie fondée sur la justice sociale, l'égalité et la liberté, entre guillemets, qu'il faudrait défendre. Les faits sont pourtant fort éloignés de la fable d'une constitution républicaine fondée sur l'antifascisme telle qu'elle a été forgée, entre autres par le Parti communiste italien. En 1946, ses dirigeants, conformément à la politique de Staline, étaient déjà à l'œuvre depuis longtemps pour garantir à la bourgeoisie la reconstruction d'un appareil d'État à son service, alors que celui-ci était en déroute depuis l'écroulement du régime fasciste à l'été 1943. De retour du RSS en 1944, Togliatti, le dirigeant du PC italien, prononça un discours connu comme celui du « tournant de Salerne », entre guillemets, du nom de la ville où il fut tenu. Devant des militants communistes médusés, il annonça que l'heure n'était pas, comme il l'attendait, à une révolution ouvrière, mais seulement à la libération du pays dans le cadre de la défaite allemande et de la victoire des troupes alliées. Il prônait donc une union nationale dans laquelle il n'était pas question des intérêts de la classe ouvrière, mais seulement de ceux « de la patrie », entre guillemets. Le PC assumait la conservation de la monarchie et donc du roi Victor Emmanuel, qui avait pourtant été impliqué jusqu'au cou dans le soutien à Mussolini. Il expliquait, citation, « Si un gouvernement constitué sous le régime de Victor Emmanuel avait aujourd'hui la plus infime possibilité de servir efficacement l'Italie, les communistes surmonteraient leur légitime répugnance et accepteraient de collaborer. » Fin de citation. Il se montrait ainsi encore plus à droite que les autres organisations du Comité de Libération Nationale, auxquelles le PC s'était joint et qui, elles, réclamaient déjà la République. Au nom de l'antifascisme, la classe ouvrière italienne fut priée d'oublier la vague de grève de 1943 qui avait hâté la chute de Mussolini, d'abandonner ses espoirs de révolution, de s'accommoder de la misère, de la vie au milieu des ruines et de l'exploitation forcenée dans les usines, et d'accepter l'alliance avec la bourgeoisie. Au sein des maquis formés pour combattre les troupes allemandes qui avaient envahi le nord du pays, le PC, devenu la première force politique, mit tout son poids pour empêcher que la classe ouvrière s'oriente vers une politique indépendante et puisse représenter une alternative à la reconstruction du pouvoir bourgeois. Entré dans le gouvernement d'Union nationale, le PC présenta l'instauration d'un régime constitutionnel et parlementaire comme le seul objectif possible et garantit même au Vatican la confirmation des accords de Latran que Mussolini avait signé en 1929. Il fallut la défaite allemande pour que le gouvernement auquel participait le PC s'oriente finalement vers la constitution d'une république. Là encore, la bourgeoisie put compter sur le PC pour assurer que la continuité de l'État ne serait pas mise en cause. Il restait seulement à maquiller le maintien des institutions bourgeoises, celles-là même qui avaient servi sous le roi et durant les années du fascisme, et pour cela de les recouvrir d'un vernis démocratique et républicain. Ce fut le rôle de la Constitution de 1946, agrémentée de quelques lignes « sociales » entre guillemets, que le PC présenta comme de grandes conquêtes. Parallèlement, conformément aux promesses de Togliatti, les accords de Latran furent la base de l'article 7 de la Constitution, garantissant à l'Église catholique la position privilégiée qu'elle allait conserver ensuite dans de vastes domaines, dont l'enseignement et la santé. Enfin, Togliatti lui-même, en tant que ministre de la Justice, fit voter l'amnistie de ceux qui avaient été compromis dans les crimes du régime fasciste. Abrité par cette Constitution, dont l'article 1er proclame que la République est « fondée sur le travail et la souveraineté du peuple », entre guillemets, l'ancien appareil d'État bourgeois demeura donc, conservant même une partie des lois du fascisme et de ses hommes en tant que cadre de l'armée, de la police, de la justice. Derrière « l'acte de liberté sans précédent », entre guillemets, célébré aujourd'hui par Mattarella, c'est la dictature de la bourgeoisie et la défense de ses intérêts que la jeune République et sa Constitution permirent de remettre en selle. Nadia Cantale.